Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Jean-François Stévenin et ses belles échappées, avec aussi un lapin, Yann Dedé et Ntebine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il y a des jours où on aimerait bien s'asseoir sur le bord d'une route simplement pour regarder les autres passer comme ça, sans que pour autant qu'on vienne vous demander si ça va ou si ça va pas. Il y a des jours où on voudrait vivre dans un film de Jean-François Stévenin, on se ferait des copains, on partirait ensemble en vadrouille à la recherche d'une combe magique, on chercherait un vieil ami de colonie de vacances et on rencontrerait une femme aussi paumée que nous, on s'inventerait une famille et on réinventerait la France en la traversant. Il y a des jours où on voudrait faire une émission de radio comme Jean-François Stévenin fait son cinéma buissonnier. On la rêverait longtemps, tout serait soigneusement préparé, mais les rencontres sembleraient inattendues et les dérapages incontrôlés. Jean-François Stévenin, c'est un acteur admirable, une de ces gueules de cinéma, silhouette râblée de sangliers et yeux bleus laser, dont chaque apparition dans un premier comme dans un second rôle transcende le film par son intensité, mais c'est aussi un des plus grands cinéastes français. Si on le sait moins, c'est que l'œuvre est rare. Il n'a tourné en 24 ans, de 1978 à 2002, que 3 films. Mais quels films ! Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Ça faisait si longtemps qu'on désespérait de les revoir. Ils sont enfin ressortis en salle mercredi dernier et en version restaurée. S'il vous plaît, c'est un événement. Jean-François Stévenin est notre invité aujourd'hui dans Plan Large pour nous raconter comment il fait en frère cadet de Louis-Ferdinand Céline et John Cassavetes qu'il est pour mettre de la vie sur un écran et faire du cinéma comme on fait du karaté. Avec lui, un de ses vieux compagnons de route, le grand monteur Yann Dedé, collaborateur de Truffaut, Garel Piala et tant d'autres, mais surtout complice des premiers jours du passage à la réalisation de l'acteur et assistant réalisateur, comme il l'a raconté dans un livre jubilatoire, Le point de vue du lapin, le roman de Passe-Montagne, paru à l'automne chez POL. Dans un tout autre genre, Ntebine nous parlera en fin d'émission de l'édition en DVD Blu-ray de deux films restaurés eux aussi, deux films d'Henri Decoin dont les titres forment comme une sorte de morale. La vérité sur Bébé Donge, c'est que les amoureux sont seuls au monde.
Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles. Plus odieuse. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut. On doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace. » Mais en réalité, c'est le contraire. Il cède toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes l'ont compris. Et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants comme Julien, des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver une heure plus tard à l'école en hiver, au lieu de venir en cours dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie.
Bonjour Jean-François Stévenin.
Bonjour.
Il suffit d'être dehors pour se rendre compte qu'on aime beaucoup la vie. Vous vous souvenez du tournage de cette scène, L'argent de poche, de François Truffaut ?
Oula, je me souviens très très bien, mais ça me fait bizarre rien que de l'entendre. C'est comme si on tournait là. Ça, c'était assez étrange parce que dans ce long tournage de L'argent de poche, il y a d'un seul coup cette scène et Truffaut m'avait fait venir chez lui. Il tapait avec la machine à deux doigts. La bonne servait des carottes râpées. Il m'avait dit de dire ça. Moi, je lis ça tranquille. Et ça faisait 5 minutes 20. Il me dit, Jean-François, il faut que ça fasse 4 minutes 40. On va mettre un magasin spécial. Donc, c'est pour ça que je parle très vite dans le film, parce qu'il faut 4 40. Bon. Vous avez d'autres questions ? Je dis, bah oui, c'est étrange, parce que vous dites par une espèce de balance bizarre.
Par une sorte de balance
par une
bizarre.
Sorte de balance bizarre. Il me dit, mais c'est comme ça que vous parlez, Jean-François ? Ah bon ? Vous avez une autre question ? Alors là, je me lance. J'écoutais François, tout le film, c'est des petites touches légères, des petites sur l'enfance et tout ça. D'un seul coup, il y a le gros discours, tout à la fin, le message, l'instituteur, pour le gouvernement, tout le monde, avant le discours de fin d'année, pour les mômes, ça fait quand même un gros pavé bien lourdingue. Il me dit, oui, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Vous avez d'autres questions ? Ben non, François, merci. Ben à bientôt, Jean-François.
Yann Dedé, vous le racontez dans votre livre Le point de vue du lapin, le roman de Passe-Montagne. Jean-François Stévenin, vous le connaissiez de loin. Vous étiez monteur sur les films de Truffaut. Stévenin était assistant et puis tout le monde se croisait plus ou moins sur les tournages. Et puis là, il y a une rencontre qui se fait quasiment sur la table de montage pour vous avec Jean-François Stévenin sur le montage de L'argent de poche.
Oui, parce que c'est l'histoire d'une transformation. Jean-François, qui disait le contraire, a toujours voulu être acteur. Et puis, comme il voulait être acteur, il faisait des numéros
Jean-François
d'acteur.
Jean-François Stévenin fait le nom de la tête, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image.
Il dit souvent non, hein. C'est comme les 1000 pages, il dit que ça n'a jamais existé, qu'il avait 1000 pages sous son siège.
Mais je les 1000 pages du scénario de Passe-Montagne,
voilà,
dont vous parlez dans votre livre.
Les Passe-Montagne, elles ont peut-être été déchirées et jetées dans les montagnes du Jura, mais elles ont existé une à une, j'en suis persuadé, même si ce n'est pas vrai. Et donc, je ne suis pas non plus persuadé qu'il n'avait pas envie d'être acteur. Je pense qu'il avait très 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 envie d'être acteur et réalisateur, bien sûr. Mais le fait d'avoir envie d'être acteur le faisait histrionner très souvent dans la vie. Et il racontait des histoires absolument éternelles qui personnellement me rasaient un peu. Et puis quand tout ça s'est concentré et a véritablement fleuri pour faire, pour se réaliser dans un film, effectivement, ça s'est mis à s'envoler. C'est-à-dire, il n'y avait plus aucune fausse note. Voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'ai tout à fait l'impression, en montant les rushs, que je suivais la musique, ce qu'on fait avec les grands acteurs. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour monter, ça se fait tout seul, c'est eux qui mènent la danse.
Et moi, j'étais très surpris à l'époque, parce que Yann, en train de monter, alors qu'on ne se connaissait pas trop, on se connaissait, mais on ne se fréquentait pas, finalement, sur la nuit américaine, tout ça. Là, me dit, là, ça y est. Là, je t'ai vu pour de vrai, tel que tu es, mais tu ne sais pas comme tu es. Il m'a dit ça, je ne comprenais pas du tout. Il m'a dit, là, je viens de voir le vrai Sévenin, c'est celui-là. L'autre avant, c'est bidon, je fais du violon, je fais du show pour tout le monde, mais tu n'es pas là. Là, je viens de te voir. Moi, je ne comprenais pas. Et ça dure.
Mais alors, on a failli passer un extrait de La Nuit américaine au début de cette émission. Et puis, heureusement, j'ai lu le livre de Yann Dedé, dans lequel vous racontez, puisqu'il vous donne souvent la parole dans ce livre, Jean-François Stévenin, que pour vous, La Nuit américaine, c'est un peu le moment où vous décrochez de Truffaut. Vous dites, c'est le film de trop. Et oui. Finalement, oui. Vous avez plus appris, avant d'être réalisateur vous-même, quand vous étiez assistant réalisateur, de ceux que vous appelez les voyous, les Jacques Rosier, les Peter Fleischmann, Jacques Rivette. C'est plutôt eux qui vous ont donné l'envie de passer derrière la caméra pour être réalisateur ?
Oui, parce qu'avec François, j'avais fait un peu tous les métiers au carrosse, mais les films ne me branchaient pas. Mais j'étais ravi, moi, j'étais premier assistant, c'est à Scuderia Ferrari, on est chez Truffaut, on a envie, un mec qui change les pneus là sur les Grands Prix, les pneus de Formule 1, il n'a qu'une envie, c'est que l'an prochain, on le rappelle. Parce que si tu fais perdre une seconde à Schumacher sur le tour et que le Grand Prix est planté, donc c'est challenge. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'être réengagé comme premier assistant. J'avais aucune envie, contrairement à ce que dit Yann, ou alors tellement enfoui, d'être acteur, vraiment pas. J'avais envie de tourner, d'être là sur des plateaux. Et voilà.
Et alors, c'est quand même un peu grâce à Truffaut, de manière décalée, parce que c'est en faisant les repérages, vous l'avez plusieurs fois raconté, des décors d'extérieur des deux Anglaises et le continent, que vous redécouvrez un territoire que vous connaissez bien, a priori, qui était le Jura natal, mais que vous n'aviez jamais vu avec des yeux de cinéaste.
Voilà, c'est par une sorte de hasard bizarre, c'est grâce à François, puisque je me retrouve sur les deux Anglais et le continent où je ne travaille pas sur le film, il y avait un décor qui devait se passer, les glaciers, la haute montagne et tout. Moi, je suis dans le Jura, j'ai photographié un lac près de chez moi. De ce temps-là, on envoyait des polaroïdes, parce qu'on n'avait pas les moyens de transmission de maintenant. Je vais dans les Alpes pour rien, et François voit ça, il dit « c'est bon ». On tourne là. Donc, d'un seul coup, moi, alors que j'étais étudiant à une petite ville, on se soignait à m'emmerder avec un père qui plantait des téléskis. Donc, le dimanche, on allait faire du ski et lycée. Le ski et lycée. Et je connaissais personne. Et après, préparation, machin, HEC, voilà. Et d'un seul coup, je me retrouve là. Je connais enfin des vrais gens. Des vrais agriculteurs, des bûcherons, il faut emprunter un tracteur. Tout ça, il n'y a pas d'argent. Hein. Ça a beau être Truffaut, il n'y a pas assez d'argent. Donc, il faut trouver tracteurs, des bûcherons, des mecs qui écorcent les écorces, d'autres qui les traînent sur un lac, de faire tout un... On a des vrais gens. Et là, je me dis, ben voilà, ça y est, c'est des vrais gens. Et si un jour, alors là, c'est la petite graine qu'avait plantée Jacques Rosier sans le faire exprès des années auparavant...
Vous faisiez du côté de Rouette avec lui.
Du côté de Rouette, qu'on avait tourné pendant 2 ans, et qu'on était 7-8. La première partie du côté de Rouette, on était 9. Il trouvait que c'était une grosse équipe. L'année d'après, on n'était plus 4. Où là, c'était l'enfer. Je me suis dit, bon. Enfin, mais ça m'a donné l'idée que si je trouvais un peu d'argent, avance sur recette, une chaîne de télé, un peu d'argent, et quelques cow-boys prêts à tout. Eh ben, pourquoi on ne ferait pas un film ? Carrément. Mais carrément, en direct. Et ce qu'on a fait. Mais il a fallu que Truffaut passe là d'une façon détournée. Et dans l'argent de poche, il était d'ailleurs parfaitement au courant que j'essayais de préparer un truc. Il me disait, votre projet, ça avance ? Jean-François, moi, je n'avais rien fait du tout. Donc, je travaillais avec Stéphanie Granel, qui était l'assistante de Yann. Et les jours où je ne tournais pas le lendemain, eh ben, on passait la nuit en faisant du feu. Moi, je radotais mes histoires pour essayer de faire monter la sauce, et puis etc. Et puis de l'argent de poche, qui était à tiers, on est passé directement en Jura, direct. Et là, Yann y est resté jusqu'au premier jour de tournage, 2 ans après, pour faire le pilier qui faisait que... Il n'y avait pas de scénario, il n'y a rien. Un jour, il y aura un scénario, un jour, il y aura ça. Un jour, il y a l'avance sur recette, un jour, il y a une télé. Un jour, il y a Barbet Schroeder qui met la garantie de bonne fin en disant on peut y aller. Mais non, quoi, on est libre. Et grâce à Yann, on a pu tourner le film parce qu'il n'aurait pas été là. Je ne sais pas s'il y aurait eu l'énergie pour arriver au bout. Hein.
Moi, il y a 15 ans, le dimanche, c'était d'abord un jeudi. C'était le jour du bac blanc. Je l'avais séché, puis j'étais parti marcher avec le mec que tu as vu hier soir.
Ah oui, la division Charlemagne.
Non mais si tu veux, moi avant je faisais du dessin industriel pur. Maintenant, c'est des relations publiques, mais toujours dans le même cadre, tu vois, aménagement des boulevards périphériques autour de Paris.
Ah oui, les boucles.
Au début, je voulais un coin tranquille, simplement avec une planche à dessin pour faire des projets. Finalement, la planche, j'en ai construit une géante, qu'on puisse marcher dessus. En ce moment, toi, t'es exactement assis là. Tu vois, je voulais une forme. C'est du passé, c'est des conneries. Il y a encore une maquette du projet dans la forêt. Réalisable avec un arbre géant. Un seul. Couché, incliné en appui sur un V à l'envers. Un V. De loin, dans la forêt, c'était comme un oiseau posé dans une combe. Une combe magique.
Ah, disons, il y a 15 ans, le même jour, à la même heure, je faisais la première mi-temps de mon premier match de foot. En 6e.
C'est quoi la combe magique ? Un creux défriché par les Indiens du Moyen-Âge ? C'est loin ?
Alors à nouveau, pour ceux qui n'ont pas l'image, pendant que cet extrait passait, Jean-François Stévenin mimait les gestes de tous les comédiens, c'est-à-dire lui-même qui jouait Serge et Jacques Villeray qui jouait Georges. Et c'est un peu comme ça qu'il vous a raconté le film, Yann Dedet, avant même de le tourner. Quand il y a un scénario de Jean-François Stévenin, c'est avant tout Jean-François Stévenin qui mime et imite tous les personnages.
Alors ce qui est amusant, c'est que c'est les deux, parce que là encore, c'est un truc qui nie, mais il y avait un scénario, puisqu'il y a eu une avance sur recette, donc il y a eu forcément un scénario. Mais c'est là où se situe quand même la façon qu'il a de faire, c'est que le scénario se transforme pendant les repérages. Donc moi j'ai passé des heures en voiture avec lui, on cherchait des endroits pour tourner, et assez souvent d'ailleurs c'était pas ce qu'on cherchait qu'on trouvait, je m'explique, c'était pas parce qu'on cherchait un garage qu'on trouvait un garage, ou une case de voiture qu'on trouvait une case de voiture, mais là on a trouvé une scierie pour faire, etc. Donc chaque aventure sur les routes débouchait sur des choses qui enrichissaient le film, le modifiaient, et de la même façon, en conduisant, il racontait les scènes de façon à chaque fois différente. Il a rajouté une femme à Villeray pour aimer une femme dont il avait, avec qui il avait l'air d'être plutôt en déport, etc. C'est-à-dire le scénario continue à se construire, à se modifier pendant tous les repérages, pendant toute la recherche des comédiens aussi, bien sûr, en fonction des comédiens. C'est-à-dire il y a des comédiens qui se dédoublent. Lui, il s'est trouvé une espèce d'ombre jouée par Yves Lemoyne, qui est une espèce de double de lui-même dans la série. Enfin, c'est de l'enrichissement perpétuel. Donc, on peut dire à la fin qu'il n'y avait pas de scénario, ou plutôt qu'il y avait un scénario qui s'est totalement modifié. Mais je me souviens très bien que quand le film a été fini, une semaine, deux semaines après, j'ai relu le scénario et je me suis dit, c'est extraordinaire, ça n'est absolument pas le scénario à la lettre, mais c'est exactement l'esprit du scénario. Ça, c'est un phénomène tout à fait net, puisque tout ce qu'il invente au fur et à mesure des modifications du scénario va dans le même sens, enfin, tente à aller vers peaufiner le rêve qu'il a dans la tête et dont le scénario est une des images, et le film lui-même une des images possibles aussi, une des meilleures images du rêve.
Tu me l'as souvent dit, ça. Et ça, oh là là, ça donne envie immédiatement d'en refaire un, hein, comme tu me parles, parce que moi, c'était hier, tu me racontes n'importe. Là, on y était. Ah là là!
Mais si vous maîtrisez autant les gestes de vos personnages, c'est non seulement parce que vous avez imaginé, rêvé ce film, vous l'avez tourné, mais pour les besoins de la restauration de ce film, vous êtes revenu sur vos trois films pour l'instant. Hein, on va voir ce qui se passe après. Comment est-ce que vous vous êtes replongé dans ces films-là et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Vous revoyez toutes ces histoires de tournage que raconte Yann Dedet dans son livre, ou vous voyez un film qui est devenu un objet extérieur?
Oh ben... Enfin, un objet extérieur, parce que tout au départ, quand on voit ces films, on n'est que navré de tout ce qu'on n'a pas fait. J'avais rencontré Orson Welles il y a très longtemps, qui disait à François Reichenbach, « Moi, mes films, c'est des cimetières de plans, tout ce que je n'ai pas tourné. » Donc, moi, pendant les 10 ans qu'on suivit les films, impossible de les revoir. À chaque fois, aller vomir, aller se dire, « Mais qu'est-ce que c'est que... ?» Voilà. Et d'un seul coup, il y a prescription. Je me dis, c'était pas si mal que ça. Et du coup, avec la restauration, on est plongé dans le film et qu'on peut l'améliorer comme si le film continuait.
Alors comment est-ce qu'on touche justement? Est-ce qu'il y a un repentir comme chez les peintres où on se dit on peut modifier des choses?
On améliore, c'est-à-dire par exemple, là, je vous fais un exemple comme ici, si je couche comme ça, t'as le gars qui dit, ah, là, c'est tourné en pleine nuit, on voit rien. Il dit, ah, y a un petit éclair dans l'œil gauche, attends, je vais te mettre une petite pastille autour du visage, tu me diras, c'est trop. Bim, bim, il appuie. Et après, il dit, après, on voit l'image avant, l'image après. Tu dis, oui, mais, ah, tu dis, si, continue. Il me dit, si, continue trop, ça va faire sortir les sables. Ah, si, ben, vas-y, la nuit est toute noire. Si, allons-y carrément avec ça. En nuit noire, on ne voyait rien. Parce qu'on tournait avec une pellicule qui marchait pas, c'est 2h du matin sur une route, avec des phares qui marquaient pas. Il me dit, je vais te faire sortir les sapins tout au fond, on va voir que c'est une route avec des sapins. Et le bruit de la neige, les pneus qui crissent, ça a remonté. Donc le film a gagné énormément, y compris qu'on a pu nettoyer le son, le caresser et refaire remonter le son. C'est extraordinaire. On m'aurait pas arrêté, j'y serais encore, parce qu'on peut remonter le film à ce moment-là, l'améliorer. C'est-à-dire un film, ça, on a souvent parlé avec Yann, un film n'est jamais fini. Jamais fini.
Ntebine, comment est-ce qu'on revoit? Et alors, on voit comment on ne l'avait jamais vu, Passementagne, 40 ans après.
Ah ben, on le revoit, on le redécouvre, et puis à commencer par, on découvre le générique, c'est-à-dire que c'est un générique en fait qui est très riche, puisque au générique, par exemple, il y a John Cassavetes.
Continuité, John Cassavetes.
Ouais. Comment il vous a aidé, John Cassavetes?
Oui, moi j'ai voulu mettre ce poste continuité dans le scénario parce que c'était des passeurs d'énergie. Donc J'ai mis le nom du cuistot qui nous a hébergés pendant 3 ans, le nom de Stéphanie Granel, le nom de notre prof de karaté, Georges Diga, toujours vivant, et qui a participé au film, et John Cazavetes, pour les gens qui m'ont donné l'énergie pour traverser les 8 ans avant le film, si vous voulez, voilà.
Une musique de nuit, ça. Attends, là, t'es une nuit, là, tu vois, hein, là. Hein? Je soigne pas, moi. Hein? Disons, où as-tu été hier? T'as trouvé une petite gondesse hier? Hein? Hein? Non? Il n'y a pas eu? Hein? Pas sur les prés, non? Hein? C'est joli, hein, qu'elle est bien payée.
Chef, vous pourriez nous faire une petite fondue bourguignonne à l'auberge, s'il vous plaît?
Non, non, j'ai pas de bidoche, et puis je suis creux.
Jean-Père, on ferait pas un petit truc à ton refuge? Sous pas l'union, j'ai toujours n'importe quoi.
Moi, je suis même, la mémé, vous pouvez être bien contente, hein.
La mémé, t'as un terre demain? On est d'accord?
Pour la demoiselle.
Ah, ah non, non, pas sûr.
Bien au pays du chien qui chante, hein, pour reprendre le titre de votre film, oui. Yann Dedé, où même les Japonais connaissent tellement ce chien qui chante qu'ils vont le chercher un peu partout dans le Jura et puis rencontrer autre chose. Cet homme, ce maître chanteur de chien, c'est Raymond Benoît, une des personnes que vous aviez rencontrées là-bas, Jean-François Stévenin. Comment est-ce que vous faites pour, je ne dirais pas diriger, mais pour organiser ce qui se passe dans des scènes comme ça? On est voilà, au casino des Chauvins, quelque part dans la montagne.
Eh ben, vivre avec, très longtemps à l'avance, quoi, pendant 6 ans. C'est-à-dire, voilà.
Ce qui explique pourquoi il y a tant de temps entre vos films.
Bien sûr, parce qu'au départ, j'ai pas du tout envie de faire une séquence là-bas. Mais c'est à force de vivre là-bas, ça s'influe entre ce que je vis dans la vie et ce que je voulais faire. Donc je me dis, ben ça c'est formidable. Et hop, et là, des nuits entières, et encore, sans jamais parler de film, et puis le film, parce qu'il n'est pas là, puis il devient vrai, puis à un moment, on se dit, ben, il va falloir le tourner. Et là, d'un coup, il a fallu que la manipulation inconsciente soit si mystérieuse, qu'un seul coup, ça devient évident, et qu'il n'y a même pas d'autorisation à avoir. Et moi, ce monsieur, je ne l'ai absolument pas dirigé. Et avec Yann, ce qui nous a surpris, dans tout ce qui a été tourné, il n'y a jamais un regard caméra. Caméra qui était pourtant, comme Bean est là, à 70 cm. Donc, jamais un regard caméra. Ce qui casserait n'importe quel plan. Hein.
Bah, d'autant que les plans sont longs chez vous. C'est-à-dire bien que vous, sûr. Tout ça est tourné en plan séquence. Donc, voilà. Un regard caméra, ça ruine toute la prise et presque toute la journée de tournage.
Alors, j'ai... Simplement, je sais pas, je le regardais, Villeray, c'est là, Villeray co-dirigeait, on peut dire. Parce que ce que vous avez mis en début de séquence, le ting ting ting, c'est une petite musique, l'autre, une petite musique de nuit, ça c'est Jacques. Et puis après, eh ben Jacques, au lieu de faire miroiter ses beaux yeux bleus, eh ben non, il se couche sous l'épaule de ce monsieur qui lui caresse le front.
Qui lui enlève une petite poussière sur le front.
Qui lui enlève un petit chenille, qui dit, elle est jolie quand elle est bien peignée. Alors, c'est Jacques qui a dirigé. Moi, je suis à côté. La caméra est à côté. Enfin, tout ça tient dans 3 mètres carrés. Il n'y a personne qui dit, bon, on va faire une deuxième prise. Le chien, ça serait bien qu'il fasse un peu ci ou ça. Non, c'est des gens tellement imprégnés du truc qu'à un moment, il faut que ça se passe. Et si ça se passe pas, ben on va attendre, ce qu'on a fait. Hein. Avec Yann, on a tourné ça, ça a duré 4 jours, on avait 1h30 de film. Hein. Mais à force de couper, de monter, etc., il reste plus que ça.
Mais voilà, mais c'est ça qui est très passionnant, c'est que vous tournez en plan séquence, mais on aurait du mal à s'en rendre compte quand on voit le film monter, parce que vous n'hésitez pas à couper, à travailler à l'intérieur du plan. Alors là, je parle au monteur, Yann Dedé, parce qu'on a celui qui a préparé le film avec vous, mais après, il faut le monter. Ce film, Yann
Dedé. Oui, d'ailleurs, comme on l'a monté normalement au début, ça n'allait pas du tout. Parce que Jean-François a vu les... Oui, normalement, on a enlevé les claps et puis on a enlevé les coupés. Alors donc, on se trouve devant une suite de très beaux plans séquences, très bien contrôlés, magnifiques, qui partent d'un point A et arrivent à un point Z. Et Jean-François, à chaque fois qu'il en voit un, et dans la totalité du film, est catastrophé parce qu'il voit l'intention, c'est-à-dire le désir... joliment fait, bellement fait, avec adresse et même souvent assez malin et pas si évident que ça, mais quand même que le plan décide de lui-même d'aller d'un point A à un point B et que ça a l'air prévu, voilà. Or, tout le travail après qui l'intéresse lui, c'est de faire comme si les choses arrivaient par hasard. Donc il faut absolument pas ces choses magnifiquement contrôlées et qui peuvent être très belles, qui sont des plans séquences. Donc il faut les casser. Mais la possibilité extraordinaire que ça soit cassé sans être cassé, c'est comme c'est tourné en plan long. Il y a un souffle qui persiste, je dirais, au-dessus des colures. Et là, la façon qu'il a de monter lui, c'est-à-dire qui est bien plus osé que ce que je faisais à l'époque. J'avais déjà travaillé avec un fou furieux du montage qui était Dushan Makaveyev, qui m'avait mis un peu sur la piste de ce qu'on pouvait faire, disons, en étant à première vue irraisonnable. Mais lui, il va plus loin. Et je comprends que ça va plus loin à tel point que le seul mot que j'ai en le regardant travailler, en le voyant réinventer l'écriture de son film, c'est, je lui disais souvent, tu peux pas faire pire, s'il te plaît. Voilà. Et c'est comme ça que vraiment que le montage a fonctionné. C'est-à-dire, moi, j'ai peu monté, je l'ai regardé monter et admiré monter, et je lui disais, vas-y, continue, va plus loin, sans arrêt.
Mais c'est ce que vous appelez le montage de sensation, Jean-François Stévenin. Ce qui compte, c'est pas tant ce qui est raconté, exposé, que ce que va ressentir à la fois le personnage et évidemment surtout le spectateur.
Ben oui, par contre, un exemple tout simple, un plan séquence. C'est par exemple nous là tout de suite en train de parler. Après le plan, on sort, papa, on va jusqu'à l'ascenseur, on discute. L'ascenseur s'ouvre, on hésite devant. Fin. Ça dure 1 minute 5. Si on met le plan de l'ascenseur, on ne sait pas encore si ça va sortir ou pas. Le plan là tout de suite où on est en train de discuter, un plan intermédiaire près de la régie, on va se dire, mais ces gars-là, ça fait 3 heures qu'ils discutent. Alors que le plan séquence, il fait 1 minute 10 en temps réel. On le coupe comme ça, et d'un seul coup, ça fait des heures qu'ils sont là en train de boire un coup, ça va jamais finir ce truc-là. Eh ben si. Donc ça, et ça donne de l'intensité au film, et ça raconte ce que ça voulait raconter. C'est-à-dire, nuit blanche, tout au départ, on était là avec Yann, nuit blanche, ça faisait 1h30. J'ai dit, attends, le film, il va faire 5 heures ou quoi? Et puis ça raconte rien. On a réussi à descendre le film, grâce à Truffaut, qui nous a donné un coup de main, d'ailleurs, sur le fait qu'il avait vu le film et qu'il nous avait dit, vous faites une baroquerie forestière, allez-y à fond. Et on devrait inventer une rubrique pour vous dans Pariscope en disant le fantastique paysan. Il nous a laissé avec Yann. On s'est rebranché sur le film. Et effectivement, La Nuit Blanche fait 6 minutes 50. Avec des gens, je me rappelle, j'allais à la sortie du Saint-André-des-Arts où Roger Diamanti se sortait. J'avais un casque pour les voir. Les gens sortaient à ce moment-là. Moi, j'étais content. Il y en a qui peuvent plus supporter. Ils ont passé une nuit à boire, à picoler. Ça dure 6 minutes 50. Les gars, ils n'en peuvent plus. Donc c'était le but, non pas que certains peuvent plus, et d'autres qui s'accrochent jusqu'à « Ah, puis ça remonte à la fin !» pour raconter quelque chose.
Hé, hey, François, tu veux boire quelque chose? Hein? Oh, t'es là, et c'est le destin, tu te rends compte? Mais émotion, mais... Merde! Putain, faut changer, peut-être un peu de bite, là, non?
Il y a 25 ans.
Oh, 25 ans, mais tu te rends compte? Souvenir. Tout de suite, ça m'est revenu, là. Ah, mais comme t'étais un chef, là.
Ah. Toi aussi, je t'ai vu en couverture, là, sur les...
Ah non, tu veux dire la photo, là?
Oui.
Oh, c'est rien, mais je te parlerai plus tard, non, mais je t'expliquerai.
Non, mais c'est sur un bouquin.
Mais je suis un tinoche, moi. Spectacle, tu rigoles, ouais.
Ah bon?
Ça roule pas, je te raconterai. Non, mais je voudrais que tu me dises, dis-moi. Tu te rappelles, l'autre, tu l'as revu?
L'autre?
Le Gunch.
Bah, comment veux-tu que je l'ai revu? J'ai pas une nouvelle, jamais.
T'as pas une nouvelle? Surprise.
Quoi?
Attends. Hein? Surprise! Moi, j'en ai! Ah, c'est pas vrai, t'as touché mes dossiers! Je rentre, tu déranges! Alors, regarde ça, c'est Kunczynski. Tu vois, regarde.
Ouais.
Kunczynski, tu vois. Travaux, Jeux Olympiques de Grenoble.
Mais tu crois que c'est lui?
Ah, bah, il y en a Kunczynski, il y en a pas 50.
Grenoble, c'est marrant parce que j'y vais peut-être samedi signer un contrat pour la boîte.
C'est pour ça que tu vas à Grenoble samedi?
Ouais, bah. Ouais.
Oh là là, bah, tu vas aller le voir alors. Okay. Mais si, tu vas le voir.
Mais pourquoi?
Mais si, tu vas le voir, puis comme ça, tu m'appelles, puis moi, je suis au téléphone. Je lui parle. Oui, hey, oui, oui, réponds, réponds, réponds. Ah, bah oui, c'est l'occasion. Oh là là, oh, ça me fait, je peux pas savoir. Oh là là, c'est.
Alors, c'était pas il y a 25 ans, c'était il y a 30 ans et quelques. Double Messieurs, en 1986, les retrouvailles entre deux vieux copains de colo, Léo et Yves Afonso, qui vous retrouvent, vous, François, Jean-François Stévenin, voilà, et qui évoque un personnage qu'on verra jamais trop, d'ailleurs, c'est le Godot du film, ouais. Ou l'Arlésienne, enfin, c'est le Kunch, le copain, apparemment, qu'on martyrisait un peu pendant les colonies. Alors, il y a toujours quelque chose chez vos personnages, comme ça, de l'enfance qui n'est pas passée. Et c'est peut-être pas pour rien que vos films commencent par des photos, des photos des personnages enfants.
Ben oui, Passe-Montagne, c'est des gens de 30 ans, et là, c'est des gens de 40. Et Mishka sera des gens de 50. Un truc d'enfant qui reste, parce que c'est vrai que tout ce dont on rêve quand on est enfant, toutes les frustrations, tout est... C'est une marque totale, quoi.
Et avec ce personnage, et ça s'entend très bien au son, hein, vous parliez du son des films tout à l'heure, il y a ce bonheur d'écouter vos films, parce qu'il y a la langue d'Yves Afonso, c'est cette langue qui va plus vite presque que la capacité d'élocution. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui?
Moi, je l'avais connu, il faisait dans un film, Les Gants Blancs du Diable, de Laszlo Szabo, où il faisait un boxeur. J'avais trouvé ce gars extraordinaire. Ensuite, j'avais connu au Sherwood, qui est l'endroit de la brasserie dans Paris de nuit, où il y avait les filles des Folies Bergères. Il y avait aussi Balmer, Jacques Villeray, Nils Arestrup, et tout. Et lui, il était au bar, et lui, il récitait Le Voyage au bout de la nuit. Alors moi, je savais même pas si c'était que je voyais au bout de la vie. Il lui disait, non mais tu comprends, la vieille concierge est morte, elle était tout au bout de la vie, tu comprends. Puis un jour, voilà, c'était juste comme ça. Après, donc, on s'est rencontrés, je lui ai proposé ce rôle dans Double Monsieur.
Qui était prévu pour quel fond au départ?
Oui. Et là, ça allait plus parce que... Ah oui, c'est vrai. J'avais écrit ça pour Calfon. Tout, les répliques, tout, je jouais tout comme ça. Avec un personnage que fait Carole Bouquet qui prend un bain. L'autre, t'as vu, elle prend un bain, c'est nous qu'on se mouille, tu vois, je veux dire. Tu vois, bon. C'était écrit pour lui. Et puis, juste avant, un an avant le film, je vois, moi, j'avais tourné pas mal de séries, de films policiers. Et lui, il venait de faire Canicule, avec Yves Boisset, avec Lee Marvin. Alors je me dis, là, ça casse l'histoire. On va arriver, on est deux braqueurs. Ça va pas du tout. Moi, je fais un ancien de l'HEC qui bosse dans un bureau à Paris avec une moumoute et un petit costard.
Et des talonnettes.
Et l'autre, il est fils de la concierge. Il vit avec sa vieille mère, il a une loge de concierge. On va pas y croire du tout. Donc, c'est passé sur Afonso. Calfon m'en a voulu pendant 25 ans et maintenant ça va mieux.
Ce qui fait que quand vos deux personnages arrivent et font intrusion dans une maison, ça se passe pas exactement comme dans une série policière.
Bonsoir.
Stéphane.
Bonsoir. Je suis désolé, enfin on est à peu près aussi surpris que vous. C'est un peu compliqué, mais finalement, c'est très simple.
Non, mais d'abord, excuse-moi. Parce que... Non, mais écoute, d'abord, on se présente, hein.
Stéphane.
Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. Alors voilà. Alors, Pierre et André, vous voyez, de la revue Jardin et Maison. Vous connaissez cette revue? Alors, justement, votre maison a un petit peu le profil, vous voyez, de ce qui nous intéresse pour faire un petit reportage, vous voyez, sur les jardins les mieux plantés, puis les maisons les mieux... Avec votre permission,
ça,
bien
c'est...
sûr.
savez, la vie a des...
Moi, je... La petite maison, j'en fais, moi, là. J'en fais un... Faut pas me prendre pour un con. Faut surtout pas me prendre pour un con. Faut que je garde sur table avec moi. Faut pas me prendre pour un con. Hein. Parce que moi, je sais plein de choses. Moi. Hein? C'est pas le Kunchuski que je connais depuis longtemps. C'est, je sais, trafic. Tu vois? Combine. Et puis, en plus, c'est pas... C'est pas Hélène qu'elle s'appelle. Tu sais comment elle s'appelle? Léni. Mademoiselle Léni. Alors ça, je peux me faire casser dans ces cas-là. Ah, faut pas. Je casse. Faut pas me prendre, non. Faut pas me prendre pour un coup.
Alors, la Hélène en question, Mademoiselle Léni, c'est Carole Bouquet, et c'est une des très belles choses de ce film, et une des fausses pistes que vous lancez, c'est qu'on s'attend à avoir retrouvé, ayant connu Passe-Montagne, ça va encore être une histoire de garçons, de vieux enfants entre eux, un cinéma qui pourrait sentir un peu la chaussette par moment, et puis voici qu'arrive une femme, et que le film devient l'histoire de cette femme. Comment est-ce que cette bascule s'est passée? Parce que c'est pas ce qui était prévu au départ.
Ah si,
Jean-François Stévenin.
Ah, si, c'était prévu. C'était prévu, mais ça devait intervenir. Je voulais appeler le film Trouble. Trouble, c'est-à-dire ces deux cons, ils sont là ensemble. Et puis dès qu'elle est là, moi, le petit personnage que je fais, est troublé par cette femme. Au point de se dissocier un peu de son copain. C'est ce que je voulais faire sans jamais lui dire. Et non plus sans être capable de dire « Toi, tu me plais bien ». On va s'arranger. Pas du tout. Et les pistes commencent à diverger sans jamais le dire. Et c'est ça qui était formidable à essayer de faire. Ce qui est marrant, c'est là, je viens d'écouter avec vous la bande. C'est, d'un seul coup, c'est plus fort que le film, presque. Parce que si on a vu un peu le film, il apparaît en plusieurs dimensions. Quand la force du son, c'est incroyable. Mmh. Hein. Là, on voit le film vraiment fort.
Hein. N2D, c'est vous aussi qui l'aviez monté, ce film?
Oui, mais je l'ai un peu plus ponté que Passe-Montagne, où j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus découvert un sculpteur qui resculptait son film en plan séquence. Les plans séquences de Double Messieurs étaient plus courts, en moyenne une minute et demie plutôt que 3 minutes que dans Passe-Montagne. Et puis, je dirais que j'ai un peu plus monté dans, et même quelquefois, je me souviens, je faisais un peu trop du Stévenin. C'est-à-dire, je prenais un plan et je prenais le ABC, je faisais BCA, etc. Je me suis dit, tiens, voilà, ça, si je fais ça techniquement, c'est pas comme ça que ça va aller. Puis ça a marché une fois dans le hall de l'hôtel parce que c'était bien tombé comme bouleversement des trois parties du plan. Mais sinon, ça marche pas aussi simplement que ça. C'est-à-dire, je vois bien la perception que Jean-François, on a l'impression qu'il s'abstrait totalement du plan séquence. Et qui regarde des moments. Il est capable d'enlever 6 images dans un plan, enfin, ou des trucs tout, tout petits, et de faire des raccords qu'on estime totalement impossibles avec les horizontales, les verticales qui changent de place d'une façon totalement incroyable. Parce que, en fait, il est totalement focalisé sur les personnages, et qu'en fait, il n'est jamais à calculer comme certains monteurs un peu bêta font, et à tracer des lignes sur l'écran pour voir si ça va, si le montant de la porte est au même endroit. Il fait absolument le contraire de tout ça. Au contraire, c'est le déplacement des lignes dans le plan qui font les raccords et qui fabriquent que c'est fait par des êtres humains et pas par des mathématiciens un peu bornés. C'est extraordinaire.
Vous êtes d'autant plus focalisé sur les personnages que vous êtes généralement dans le plan, puisque vous jouez dans tous vos films. Et alors, est-ce que vous faites de la mise en scène à l'intérieur du plan, même en étant comédien, ou au moment où vous jouez, vous oubliez le Stévenin réalisateur?
Ah non, j'oublie rien du tout. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vie, je suis pas habile. Et devant une caméra, je suis plutôt plus habile. Mais quand on joue, en plus, ce truc qu'on a écrit, là, il y a deux cerveaux, oui, bizarrement. C'est-à-dire, je suis capable d'être à fond dans la prise, je vois la petite lumière qui clignote et me dire, tiens, l'autre, il va se gauler la perche sur le truc. À deux. Et là, je voulais choper Yann, qui m'avait fait un cadeau formidable sur Passe-Montagne. Il m'a laissé monter, mais moi, je ne sais pas monter du tout. Donc, il montait, lui, avec Truffaut, qui venait une fois par semaine à la salle de montage. Je lui disais deux, trois trucs. Il travaillait. Léa était assis à côté de moi. Il me laissait à la bécane, que je ne sais pas du tout manipuler. Et puis je me dis, mais il va monter un de ces quatre. Non, ça a duré 6 mois. Et c'est... Alors il y a un autre truc qui faisait qu'on a pu être complémentaires, comme on l'est encore toujours aujourd'hui, et complices, c'est que lui est du matin et moi de la nuit. C'est-à-dire lui à 5 heures du matin, il est réveillé. Moi, c'est l'heure où je vais dormir. Donc, quand on montait Double Messieurs, il travaillait sur Piala. Il m'a dit, je peux pas parce que je monte Piala Police. J'ai dit, il n'y a pas de problème, Maurice, tu montes dans la journée. Et puis le soir, tu me rejoins. Il revenait vite fait le soir, on se disait 2-3 indications, après j'étais la nuit avec François Gédigier qui à l'époque était assistant. Moi j'écrivais sur un gros cahier, il faudrait faire ça, il faudrait, est-ce que tu penses que, etc. Moi je dormais dans la salle d'à côté que Claude Berry m'avait donnée, une salle de montage rue Lincoln, cadeau, merci Claude. Et quand je me levais vers 12h30, hop, le truc était là, fait. Et Yann réapparaissait à 20h en disant alors ça fait quoi ? Et on a fait comme ça pendant 6 mois.
C'est peut-être enfin l'explication du titre de ce film, Double Messieurs.
Oh, bah, c'est sûr. Ah oui.
D'un côté comme de l'autre, hein, il est fragile, Gégen. C'est comme Delphine, sa fille. La maison près de la rivière. Ben, il vous dit d'aller sonner, puis qu'il attend près du pont. Puis après, il se met à boire, il disparaît. Moi, il m'a fait 10 fois le coup. Ça aurait pu être Johnny qui me cherchait. Hallyday, vous connaissez ? Le chanteur. Ah, vous le connaissez, c'est obligé, hein ? Il y a 15 ans, il s'est plié dans le coin Ferrari. C'était la nuit. Ben, ça s'est juste trouvé que moi, j'étais trop pied volontaire. Il était sur le talus, les bras en croix. Moi, je l'ai même pas reconnu. Mais lui, il est sorti du commun. Et je suis le premier qui l'a vu. Après, il m'expliquait que c'est là qu'il avait compris qu'il n'était pas mort. Il m'a dit, toi, mon pote, c'est pour la vie. Ah, depuis, ça arrive toujours quand il est en tournée. C'est souvent à cette époque. Au radar, il vient avec l'hélico. Il m'apporte toujours un gueuleton. C'est souvent du poisson. Moi, j'aime pas le poisson, mais j'ose pas lui dire.
Double Messieurs, double Jean-Paul dans cette scène dans une rivière. Hein. Jean-Paul Bonner qu'on vient d'entendre parle à Mishka, Jean-Paul Roussillon, de cette amitié étrange avec Johnny Hallyday, vous connaissez Hallyday. Et c'est Mishka, votre dernier film pour l'instant, Jean-François Stévenin, c'était en 2002. Alors c'est une très très belle scène, je l'ai revue avec beaucoup d'émotion parce qu'on en prépare une autre. Quand on a vu le film, on attend à ce qu'elle arrive, c'est vraiment une épiphanie de cinéma, c'est l'apparition pour moi... Et je l'ai dit à cette antenne quand Johnny Hallyday est mort, c'est pour moi l'apparition la plus émouvante, la plus charismatique de Johnny Hallyday dans un film. On voit un hélicoptère posé dans un champ, à côté de dos, il y a un homme qui pisse dans le champ, et quand il se retourne, c'est Johnny Hallyday, et celui qu'on prenait pour un doudingue, un fracassé, comme il y en a tellement dans vos films, un peu mythomane, mais pas du tout, Johnny c'est vraiment son copain. Comment c'est venu dans le numéro d'hommage à Johnny Hallyday que les Inrecuptibles avaient publié, quand il est mort, vous aviez dit « Je n'oublierai jamais, 23 avril 2000, le plus beau jour de ma vie ».
Bah oui, parce que moi c'est un truc de fan, et puis après je le connaissais bien, mais il voulait que je fasse un truc avec lui, pour lui, et puis il n'y a pas eu l'occasion plein de fois, et d'un seul coup il y avait cette scène qui s'est imposée, parce qu'elle allait être au milieu du film, par rapport à Jean-Paul Bonner qui joue un doux demeuré de province, qui vit avec sa vieille maman et qui a vraiment limite, quand il raconte l'histoire qu'on vient d'entendre, on se dit, bon, ben là, il déconne. Donc, quand quelques plans plus tard, il y a l'hélico et Johnny qui pisse dans le champ, ça rend tout vrai. L'archange, le totem qui est descendu du ciel, et il y a l'autre qui est là, et qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, m'a dit, on peut tourner maintenant, parce que l'autre, il joue à l'Olympia le soir.
D'où l'hélicoptère.
D'où l'hélicoptère, et pas de plan de vol, pas d'autorisation, pas de producteur, rien, personne au courant. Donc il est venu, et comme il a écrit qu'il pisse dans un champ, l'autre, au bout d'un moment, il est arrivé à midi, il dit, on pourrait tourner parce que j'ai vraiment envie de pisser. Bon, alors là, alors que toutes les scènes de on pisse, on est de dos avec une poire, tout le monde sait. Non, lui, donc c'est la prise qui est dans le film, bien sûr. D'ailleurs.
Ah, c'est le côté acteur studio de Johnny.
Absolument. Absolument, ça c'est... Et à 4h, et le soir, Wamba Baloba, l'Olympia, 23 mai 2000.
Mais vous qui aimez tellement la musique, vous avez raconté le choc de la découverte de Hendrix, par exemple, aussi fort que celle de Cassavetes. Il n'y a pas beaucoup de musique dans vos films. C'est parce que vous avez un montage, une mise en scène très musicale.
Ben, c'est-à-dire qu'avec Yann, surtout dans les premiers films, les deux premiers, on a été très déçus par la musique. On n'arrive pas. Moi, je dis, la musique, c'est 400 notes. Le parrain. Mais avant, 40 ans avant, la strada, c'est le même compositeur. C'est 5-6 notes. Alors, voilà. Et nous, on n'a jamais trouvé ça.
Alors, il y en a quand même un peu de musique hein, dans vos films, oui. Jean-François Stévenin.
C'est Pascal Comblade, c'est trop fort.
L'argot du bruit qui clôt ou presque Mishka, votre dernier film en date qu'on peut voir en salle et en version restaurée, tout comme Passe-Montagne et Double Messieurs. Alors, je dis en date depuis le début parce que l'excellente nouvelle, le scoop qu'on apprend en lisant Le Point de vue du Lapin, le roman de Passe-Montagne de Yann Dedé, c'est que pendant que Yann Dedé écrivait son livre, vous étiez à côté dans le Jura, quand vous n'étiez pas en train de réparer une machine agricole, à écrire un scénario. Et ce scénario, c'est quoi? Jean-François Stévenin.
Ça s'appelle Une fée dans le rétro. C'est que d'un seul coup, moi qui ai besoin d'user la vie pour écrire, je me suis retourné, je me suis dit qu'est-ce que ça fait, j'ai essayé plein de fois. Et d'un seul coup, je me suis dit la vie que j'ai eue avec Lucette Almanzor, veuve de Louis Ferdinand Céline, qui va avoir en juillet prochain 106 ans.
106 ans.
Voilà. Et parce qu'on a vécu des moments formidables. De voyage, de traînasserie, de tout. J'ai dit, voilà, je vais faire ça. Et j'ai tout réussi à écrire bien, 118 pages, produit, parce qu'il y avait un producteur, qui est le frère de Yann Dedé, Antonin Dedé, qui a une boîte qui s'appelle Néon Productions, et qui arrive à produire des trucs de fou. Il est tous les ans chez Robert Redford aux États-Unis, à Berlin, à Locarno. Il y a plein de trucs. Donc, j'étais vraiment poussé, puis arrivé au bout. Je me dis que j'ai pas la force pour faire un film. Plus la force. Parce que faire un film, simple, juste avant, c'est 5 ans en dormant 3 heures par nuit. Moi, je peux plus.
Et la solution, c'est d'enlever les titres, tous les titres cinématographiques, Intérieur Nuit, 3 et toutes ces bêtises, et de faire un roman. Parce que moi, je l'ai lu comme ça, et comme je supporte pas les scénarios et j'enlève toujours les titres et les numéros, moi, je l'ai lu, c'est un roman, il n'y a qu'à faire un roman. Puis après, quand ça sera un best-seller qui se vendra dans toutes les bonnes gares, tu pourras faire le film.
Ou alors une idée qu'on vient de me donner juste avant qu'on fasse cette interview, quelqu'un que j'ai vu là m'a dit, voilà, il y a un gars qui s'appelle Stanislas Delatouche, au nom, voilà, qui fait que Céline, Avignon, un peu partout en France, dans quelques salles, il fait que ça depuis 10 ans. Il a un truc très troublant, c'est que c'est un sosie complet, physiquement. Donc hier, j'ai vu le spectacle dimanche dernier, et je lui ai présenté Sergine Le Bagnier, qui a connu Céline quand elle avait 7 ans, il en a 88, et il était absolument sur le cul. Donc l'idée que m'a donnée cette fille que j'ai vue tout à l'heure, c'est de faire un truc sur scène. Moi, je lis le scénario, pas de problème. Et peut-être avec lui, qui pourrait être à côté et qui interpréterait quelques trucs. Mais là, j'ai su ça il y a une heure.
Ah, nom de Dieu. On va surveiller ça de très près, Jean-François Stévenin, parce qu'on est impatient de le voir. Merci beaucoup. Et puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, c'est l'heure maintenant, n'est-ce pas, Ntebine, d'une petite valse.
Je suis un peu émue. Tu m'apportes une valse en pleine nuit, 19 ans après, ça... Ça me planque un petit choc.
Écoute-la. Attends que je la retrouve. Je sais juste le premier vers du refrain. Je demanderai à Lido d'écrire les couplets. Oui, là voilà. C'est bien une valse, hein? Mourais sans seul au monde, dit
seul au monde.
Tu l'as, ta valse?
Oui, je n'ai plus rien à espérer de toi. Elle est quand même très jolie. Les amoureux sont seuls au monde. C'est toi qui as trouvé cette phrase tout seul?
Non, c'est toi qui me l'as dit un jour.
Moi?
Oui.
Tu en es bien sûr?
Puisque je te le dis.
Puisque je te le dis, ça devient une véritable histoire d'amour. Ntebin, ça va faire la troisième fois qu'on parle d'Henri Decoing dans Plan Large cette saison. La première fois, c'était en septembre, quand on avait raconté la très étrange histoire de la Continental Film, cette maison de production française à capitaux nazis, dont Decoing fut un des fleurons, avec notamment Premier Rendez-vous et Les Inconnus dans la maison. Et puis la deuxième fois, c'était bien sûr en décembre, qu'on a retracé la carrière de Daniel Darieux, dont Decoing avait été à la fois le mari et le Pygmalion de début de carrière. Rappelez-vous, Abus de confiance, ou encore Battement de cœur, Daniel Darieux, qu'on retrouve dans un des deux films qui sortent ces jours-ci en DVD Blu-ray dans des versions restaurées par les frères ennemis Gaumont et Pathé. Le très célèbre, La vérité sur Bébé d'Ange, troisième adaptation de ce film non par Decoing, après Les Inconnus dans la maison, précédemment cité, et L'Homme de Londres, lui aussi tourné pendant l'occupation, mais pas pour la Continentale. Mais la vraie redécouverte, c'est le film que propose Pathé, un film méconnu dans une filmographie très prolifique. Il faut le dire, hein. Les amoureux sont seuls au monde, dont on vient d'entendre un extrait, c'est Louis Jouvet qui chantait, et c'est René De Villers qu'on entendait en face de lui, l'histoire d'un couple brisé par la rumeur publique, et dont le dénouement existe en deux versions. Il y a un happy end imposé par la production, et une fin tragique souhaitée par Decoing et son scénariste Henri Janson. C'est cette version qu'a privilégié Pathé dans la restauration, Ntebin.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux films que le hasard des ressorties nous font conjuguer sont des films très différents. Il y en a un qui est le film parfait, La vérité sur Bébé d'Ange, le grand classique, le chef-d'œuvre reconnu, le film noir à la française. Et puis il y en a un autre qui est un peu mal fichu, on ne sait pas très bien quel genre c'est. C'est des contre-emplois. Et on apprend par les suppléments DVD, par Didier Decoing, qui était le fils d'Henri Decoing, le romancier donc, que c'est l'un des films les plus personnels d'Henri Decoing. Et du coup, on se met à faire une sorte de mélange entre les deux films. Ce sont deux films sur deux couples vieillissants, enfin, ou mûrissants. Et c'est des films... Alors, Les Amoureux sont seuls au monde, c'est un film de mélange de genre et de contre-emploi. Parce que Louis Jouvet, qui avait fait Don Juan de Molière au théâtre, était très complexé par son physique au cinéma. Et ça doit être, je pense, c'est son seul rôle d'amoureux de toute sa carrière. Plus tard, Decoing va le réutiliser dans Entre 11h et minuit, dans l'emploi habituel de Jouvet au cinéma, qui est celui d'un flic. Mais là, il joue le rôle d'un compositeur, amoureux artiste, qui est tenté par une jeunesse jouée par Danny Robin, qui est l'ingénue en vogue de l'époque. Et donc, ça pourrait être une comédie sentimentale. D'ailleurs, le film commence un petit peu comme ça, sur un ton comique. Et puis, ça va devenir le film sur le couple vieillissant, et de plus en plus tragique, en fait. Decoing joue comme ça, sur deux tonalités, d'une façon, avec Janson qui n'aime écrire que des dialogues, donc qui écrit une histoire sans y croire vraiment. D'ailleurs, au début, il y a une sorte de mise en abîme, comme il fera plus tard dans La Fête à Henriette. Il y a Jouvet qui dit à cette femme qui l'a rencontrée, dont on ne sait pas encore que c'est sa femme, puisqu'il joue un petit jeu, comme chez Ionesco ou comme chez Bergman. Il lui dit, imagine que nous soyons dans un cinéma et nous voyons deux personnages qui se rencontrent, etc. Donc, il y a une sorte de distance comme ça, ironique, de Decoing sur son matériau, finalement masque des choses qu'il avait quand même à dire assez profondes sur le couple, la désillusion, qu'est-ce qui fait qu'un couple ne dure pas, etc.
Si tu savais comme je t'aime.
Si tu ne peux pas t'en empêcher.
Il n'y a que l'amour qui puisse.
Je sais, je suis passée par là. Moi, c'est fini. Je ne t'aime plus.
Mais si je meurs, Elisabeth, on jugera. Ils ont des lois et puis ils te condamneront, ils t'achèveront.
Je sais.
Et tu ne te défendras pas.
Défendre quoi?
Eh bien, mais toi et puis notre enfant.
Rappelle-toi comme nous l'avons fait.
Il existe.
Il existera sans nous. Nous avons été pour si peu de choses dans sa vie. Pour si peu d'amour. Tu voudrais tout refaire, François, je sais. C'est impossible. vous les hommes. Vous aimez bien décider que la vie est ici ou bien qu'elle est là. Quand vous vous apercevez que vous vous êtes trompé de chemin et que vous nous avez trompés, vous nous demandez simplement de repartir à zéro. Comme si c'était faisable. Les bouchées doubles. On ne recommence pas sa vie deux fois, François.
Rien de mieux pour réveiller l'amour chez un mari négligent que de l'empoisonner, mais évidemment, c'est trop tard. Daniel Darieux, Jean Gabin, La vérité sur Bébé Donge.
Alors, c'est un film très paradoxal, parce que ça pourrait être un film sur une garce qui empoisonne son mari, comme il y en avait beaucoup après-guerre, Simone Signoret dans Manège, en plus avec une structure en flashback, compliquée et tout. Et en fait, c'est un film féministe. C'est un film sur une femme qui se rebelle contre une société patriarcale sclérosée, interprétée par le héros d'avant-guerre, qui était Jean Gabin, une sorte de notable qui la violente pour avoir un enfant, qui la traite comme une chose. Et finalement, ils vont se retrouver dans cette scène absolument poignante qu'on a vue. Lui, il est au bord de la mort parce qu'elle l'a empoisonné. Et il essaye de lui demander de repartir à zéro. Et elle, finalement, ce qu'elle lui dit, c'est « Moi, je suis déjà morte, rejoins-moi dans la mort. » Et c'est la seule façon dont ce couple pourra exister. Donc, c'est en même temps, c'est pour Daniel Darieux, c'est un immense une immense volte-face dans sa carrière d'actrice. Et c'est aussi un signe que De Coin était quelqu'un de très cinéphile, qu'il allait au cinéma. Et que on sent jamais on a entendu Gabin chuchoter à ce point, oui. Et Darieux non plus, sauf peut-être dans Le Jour se lève, qui donc il y a une continuité et aussi De Coin reprend une partie de l'équipe, comme nous l'enseigne ou nous le rappelle Clara Laurent dans le bonus DVD, une partie de l'équipe de Bresson qui avait beaucoup marqué notamment pendant l'occupation par ses premiers films Henri De Coin, qui était un grand cinéphile et qui reprend le compositeur et le chef opérateur de Bresson pour ce film noir, très noir et très chuchoté et en même temps tragique sur un couple qui ne peut se redécouvrir que par la tragédie.
Tébine, La vérité sur Bébé Donge est en DVD Blu-ray chez Gaumont. Les amoureux sont seuls au monde c'est chez Pathé, avec dans les deux cas de nombreux bonus où interviennent notamment, vous l'avez dit, le romancier Didier De Coin, le fils d'Henri, et Clara Laurent qui était venue à Plan Large en décembre nous parler de Daniel Darieux. Plan Large, c'est fini donc pour aujourd'hui. À la prise de son, Emmanuel Morse d'Incan. L'émission était comme toujours préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. Pas de Plan Large la semaine prochaine pour cause de festival, Imagine, mais je vous retrouverai avec plaisir et avec la caméra de Mathilde Serrel pour 4 heures d'émission en direct et en public du Centre Pompidou de 14h à 18h avec de nombreux artistes. Nous verrons comment, dans tous les domaines, les combats et les pratiques d'aujourd'hui résonnent ou non avec ceux d'il y a 50 ans. Vous vous souvenez, c'était un certain mai 68. Vous tourniez la chamade à ce moment-là, Jean-François Stévenin. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre. Présenté par Irène Omelianenko.